BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on file tout de suite sur les marchés. C'est Antoine Larigauderi qui nous accompagne ce matin pour suivre l'évolution de cette tendance qui n'est pas très affirmé quand on regarde la courbe du jour. On est certes dans le vert, mais on se cherche un peu.
C'est exactement ça, Cédric. Si on regarde bien, on peut se dire, bon, ben voilà, on est bien, petit rebond technique, plus 0,42%, on recolle le 5800, tiens, 5807 points. On a quand même perdu 4,8% sur la semaine écoulée. On a du plus 0,6 pour l'Eurostock 50, plus du 0,46 pour le DAX à Francfort. Mais alors, au milieu de tout ça, il y a quand même des mouvements absolument spectaculaires, incroyables sur les marchés d'échange. Avec une livre qui est tombée à son plus bas historique cette nuit face au dollar, avec une sorte de décrochage monstrueux et on se retrouve quasiment juste au-dessus de la parité du côté du dollar livre, du fameux câble, le taux de change comme on l'appelle, et avec ce sentiment que la Banque Centrale Britannique va devoir intervenir pour faire quelque chose, remonter ses taux pour essayer d'endiguer la chute vertigineuse de sa monnaie. Tout ça c'est consécutif à vendredi l'annonce du budget par la nouvelle Première Ministre qui fait la part belle aux dépenses alors que globalement les finances de l'État sont dans un état déplorable, qu'on a des taux qui n'arrêtent pas de grimper, une livre qui n'arrête pas de s'affaiblir. Tout ça donne un climat d'inquiétude assez fort autour des finances britanniques. Et puis, on a un euro qui a décroché à 96 centimes et qui reste d'ailleurs, après les résultats des élections législatives italiennes, on a un yuan chinois qui se retrouve avec son taux le plus faible face au dollar depuis 2 ans. On est au-delà des 7 pour un dollar. Donc, véritablement, des très très forts déséquilibres du côté des marchés d'échange. Maintenant, il y a aussi des déséquilibres du côté des taux. Alors, ils sont globalement contenus, on va dire. On arrive à 4,42 quand même. 4,42% pour la dette italienne 10 ans. On s'est réduit à 2,66 pour la dette française et 2,08 pour la dette allemande. Il y a un autre facteur à prendre en compte, hors taux, hors change, hors devise, considération budgétaire, États-Unis, Europe. On a sur les marchés de l'énergie une très très forte correction des marchés du pétrole. Le Brent de mer du Nord dégringole du côté des 84 dollars. On est au plus bas depuis février. On a un brut léger américain qui est sous les 80 dollars. Donc une somme de déséquilibre et de volatilité qu'il faut gérer, mais au milieu de tout ça, on a un marché action qui se tient relativement bien, on va dire. Mais tout ça va avoir des conséquences à long terme et provoquer des changements d'anticipation de dynamique monétaire. Ça, c'est sûr. Du côté des valeurs qui souffrent le plus, ça n'a pas trop bougé. Services aux collectivités et contracting, on a Vinci qui recule de 2,5% à 82,13€. On a Veolia, -1,79€ à 20,34€. Engie recule d'1,3% à 12,33€. Et puis à la hausse, on se replace sur les valeurs de croissance. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif étant donné qu'on a un très fort raidissement des taux d'intérêt, mais malgré tout on revient sur le luxe, hein, LVMH qui signe la plus forte hausse du CAC à plus de 16 à 616,20€. On a de la techno aussi, STMicro qui gagne 2% à 34,47€ et Worldline plus 1,7€ à 42,28€. Plus forte baisse du SBF 120, alors là c'est vraiment une très très forte chute, c'est Elior qui recule de 17,5% à 2,22€, alors qu'à la hausse on retrouve Nexity qui gagne 5,5% à 22,26€. Le CAC donc plus 0,34, 5803 points, c'est un peu l'œil du cyclone, hein, le petit coin de calme alors que c'est vraiment la tempête et la bourrasque tout autour. On a marché action qui se tient à peu près bien. Et du côté de l'euro face au dollar, toujours 96 centimes, on est à 0,96,87 très exactement, Cédric.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Louis de Montalembert et Alexandre Baradet sont en plateau. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être là. Louis de Montalembert pour Pléiade AM, Alexandre Baradet pour IG. Bon, d'abord, quel sentiment vous avez ce matin quand on regardait l'avant-bourse, comme on dit, on se disait, oh là là, ça va encore swinguer. Et puis finalement, Alexandre, on s'en sort pas si mal.
On s'en sort pas si mal parce que on navigue dans des risques qui sont déjà connus par le marché, en fait. Et c'est vrai que ces dernières heures, c'est surtout sur le marché des changes et sur les taux que ça a beaucoup bougé. Et finalement, le marché actions encaisse ses chocs depuis déjà des mois et il y a pas eu vraiment de nouveauté. La nouveauté, c'est l'Italie. Mais l'Italie, dont les sondages montraient très clairement que cette poussée extrême droite était très, très probablement l'issue de l'élection. On voit que les spreads ce matin, donc les écarts de taux entre l'Italie et l'Allemagne sont restés à peu près stables. Il n'y a pas de mouvement spécifique. L'euro était baissier, mais moins que la livre face au dollar et dans la même proportion que le yen par rapport au dollar. Donc on a aussi cette problématique, surtout d'un dollar fort en fait, hein, plus que de devises. Alors sur le Royaume-Uni, il y a une problématique un peu spécifique, une inflation qui est plus forte, des problématiques liées au Brexit qui intensifient un petit peu la question de l'inflation et du ralentissement économique. Mais le marché action, selon moi, il commence à trouver une valeur assez juste parce que, regardez ce matin l'IFO. L'IFO en Allemagne, donc climat des affaires, on est à 84. C'est son pire niveau depuis la crise Covid. On est allé plus bas pendant la crise Covid. Et ceci, c'est son pire niveau depuis la crise des subprimes. On est allé plus bas. Le DAX n'a pas corrigé plus que ça parce qu'on a des multiples désormais qui commencent à devenir assez intéressant si la situation ne se dégradait plus. Donc là, on a l'impression que le marché commence à faire le pari que le lot de mauvaises nouvelles a été quand même pas mal encaissé, géopolitique, le ralentissement macroéconomique voulu par les banques centrales, hein, ce ralentissement, il est subi évidemment parce que c'est jamais agréable de voir l'économie ralentir, mais il n'est pas non voulu par les banquiers centraux. Donc on a l'impression que c'est aussi en quelque sorte piloté par les banques centrales. Le marché se dit qu'à tout moment, quand les banques centrales jugeront qu'on va un petit peu trop loin ou dans la rhétorique ou dans la hausse de taux, il y aura un petit pivot qui sera effectué à ce moment-là. Et donc on a l'impression que les investisseurs sont assez réticents à vendre. La volatilité sur le marché américain, elle est à 30-31. Donc c'est des niveaux que Jérôme Powell avait qualifié d'ordonnés. On est sur des corrections qui sont ordonnées. Voilà. Sur le marché d'échange, c'est un peu plus désordonné, mais sur le marché d'action, c'est volatile, mais c'est pas paniquant. Voilà. Et juste pour terminer, on commence à toucher des niveaux aussi technique, je pense que les investisseurs, les gérants, les regardent peut-être aussi. Typiquement le CAC à 5008, son niveau de ce matin, c'est des niveaux de support qu'on surveille déjà depuis des mois sur votre antenne. On dit voilà, à 5008, il y a des grosses zones, 5006-5008, c'est une vraie zone tampon d'un point de vue technique. Il y a beaucoup de niveaux à cet endroit-là. Donc je pense que les marchés aussi auraient un petit peu cet aspect-là. À 10 fois les multiples, on commence à réfléchir quand on tape des gros supports. Et puis pour le DAX, c'est pareil, il y a des niveaux très psychologiques. Le DAX, on a corrigé 50% de tout le rallye post-Covid. 50%, et on retouche là aussi des niveaux, des obliques supports de long terme. Donc je pense qu'il y a aussi un petit côté technique qui fait que le marché commence à évaluer les risques sur ce niveau-là.
On va rentrer dans pas mal de détails, mais si on fait une petite liste ce matin, IFO, Italie, livre sterling, franc-suisse, et pourtant on est dans le vert.
Oui, mais en fait, vous avez effectivement, comme le dit Alexandre, des niveaux de digestion du marché.
D'accord.
Donc on a vu qu'au début de l'été, il y a eu un fol espoir qu'effectivement il y aura un retournement potentiel de la politique monétaire américaine. Et puis finalement, est arrivé Jackson Hole, et puis derrière l'inflation qui a fait un affichage qui était défavorable et un discours extrêmement agressif de la Banque centrale américaine et des anticipations de hausse des taux jusqu'à 4,60, donc qui ont réajusté par rapport à ce qu'il y avait avant. Et donc, on a eu une phase de digestion dans laquelle les marchés ont fortement corrigé. Et finalement, à un moment ou l'autre, il faut de nouvelles mauvaises nouvelles pour que les marchés retrouvent une jambe baissière. Or, les nouvelles politiques du côté de l'Italie étaient connues depuis un moment. Et puis finalement, on a une forme de recentrage de Giorgia Meloni dans son discours. Elle appelle à un gouvernement de centre-droit, ce qui est quand même intéressant comme vocable. Elle ne dit même pas de droite, elle dit de centre-droit. Et quant à l'Angleterre, où le Royaume-Uni, il est un peu hors-jeu, il est dans aucune zone, et donc il vit ses malheurs dans l'isolation. Donc, en fait, on a probablement des supports, effectivement. Alors, moi, je ne m'y connais pas du tout en analyse technique, mais on le voit bien qu'en termes de nouvelles, pourquoi est-ce qu'on est dans le vert aujourd'hui? Parce qu'on a tellement baissé, ça pourrait être ne serait-ce qu'un rebond technique. On ne l'a pas volé, hein, ce rebond technique. Mais on peut aussi se projeter un peu plus loin et se dire que dans l'environnement que l'on connaît aujourd'hui, dans la rhétorique qui est déployée aujourd'hui par les banques centrales, on est arrivé à un niveau de support qui est quasiment le niveau qu'on avait atteint au moment de la déclaration de la guerre en Ukraine. Il me semble que le CAC était à 5007 au plus bas. Et donc, c'est assez raisonnable de se dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a des chiffres des entreprises qui sont quand même encore très bons. Et donc, que faut-il de plus pour qu'il y ait une nouvelle vague baissière des marchés?
Alors, malgré tout, il y a nos banquiers centraux qui sont là et qui posent vraiment des questions. C'est-à-dire que ils confirment la cadence. En tout cas, c'est ce que la Fed a fait. Ce qui n'est peut-être pas d'ailleurs sans ne pas faire les affaires de la BCE, parce qu'elle va être obligée de suivre. Sinon, ça se ressentira sur les devises. Comment est-ce que vous voyez les choses en termes de banque centrale? Parce qu'effectivement, depuis Jackson Hole, les marchés en ont pris pour leur grade. Ils vont devoir faire avec.
Oui, ils vont devoir faire avec. Mais on a quand même le sentiment, c'est très léger hein, comme sentiment. Mais à la dernière réunion de la Fed, le match c'était 75 points de base ou 100 points de base, même si la probabilité était quand même sur 3/4 de points. Powell aurait pu sortir le 100 points de base s'il estimait qu'il y avait urgence à le faire et que finalement il était un petit peu trop behind the curve. Or, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il a bien choisi le 115 points de base. Et le 10.
Le 100, il avait repris de la vigueur de la bête avec le précédent chiffre d'inflation oui. aux États-Unis qui avait effectivement fait grimper les pronostics sur le 100 points de base.
C'est exactement. Le marché avait déjà ajusté à la baisse sur, par rapport au 100 points de base. Donc, 115 points de base. Et puis, un discours qui a accompagné qui était un peu moins raide que celui de Jackson Hole. Le temps était plus restreint aussi à Jackson Hole, donc il fallait caser plus de choses en moins de temps. Mais il y a eu des propos qu'on pouvait retrouver dans les déclarations de juillet, qui avaient plu au marché à ce moment-là. Il a remis, il a restylé dans son discours quelques éléments un peu, de, voilà, un peu plus souples que ce qu'on avait fait à Jackson Hole. Moi, je pense qu'on a touché le pic. Alors, je ne dis pas le pic de taux de la Fed, mais le pic rhétorique agressif de la Fed, je pense qu'il est passé. Et ensuite, on aura des hausses de taux de 50 points de base, 25 points de base, donc on ira encore. Mais si on parle de l'ajustement des marchés aussi, un taux qui est très sensible à ça, au niveau de taux de la Fed, c'est le taux de 2 ans américain. Et ce taux qui provoque ou pas des inversions de courbe de taux, la courbe est très inversée actuellement. C'est-à-dire qu'un taux de 2 ans américain, il est au-dessus du taux de 10 ans de 50 points de base. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans une dynamique d'inflation et de durcissement monétaire qui est là. Mais. Le 2 ans américain, il est à quasiment 4,30. Les projections des membres de la Fed pour leur taux, c'est des projections, ces fameux dot plot hein, qu'on a vu il y a quelques jours, c'est 4,6 à peu près hein, pour arriver au taux, un petit peu au taux neutre. Donc à 4,3 le 2 ans, s'il faut la 4,6, il reste quelques fractions de pourcentage pour y arriver. Et donc ce sentiment, c'est que le taux 2 ans, finalement, il a bien maturé tout ça. Donc si le taux 2 ans a bien maturé cette question de l'inflation et des taux de la Fed, bah, les valeurs de croissance sont très sensibles à ces taux qui se redressent. À un moment donné, finiront aussi par bottomer. Et après 30% de baisse sur la tech US, pour aller sur des moins 50 ou autres, il faudrait vraiment que la Fed redurcisse encore. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne sente pas arriver. Or, et Louis a parlé, il y a beaucoup de choses qui sont en train de baisser. Antoine Larigauderie aussi, le pétrole, il y a des indicateurs de composantes de prix dans les PMI, les ISM qui sont en train de ralentir, les loyers qui ralentissent. Il y a beaucoup d'indicateurs aux États-Unis qui montrent que le pic inflation semble derrière nous.
C'est vrai que les banques centrales, bon, certes, elles sont là, elles font leur taf, mais c'est surtout les taux qui aussi conditionnent le choix de telle ou telle valeur face à cette inflation. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, justement? Est-ce que il y a telle ou telle valeur qui vous paraissent plus défensives? Qu'est-ce que vous feriez?
Alors, nous, dans notre approche, on n'est pas tactique. Moi, ce que j'essaie de juger, c'est de la qualité d'une entreprise et de son prix. Et donc, effectivement, cette question tactique de se dire les taux montent, est-ce qu'il faut que j'aille dans le défensif, m'intéresse assez peu dans une perspective d'investisseur. Moi, j'essaie de me positionner sur 5 à 10 ans en me disant, est-ce que je peux aujourd'hui acheter quelque chose qui a vraiment un espoir de gain important sur 5 ou 10 ans. Et donc, je vais rechercher des entreprises.
Donc, nos petites turpitudes, entre guillemets, qui nous tiennent en haleine depuis des semaines, voire des mois, sur la cadence des banques centrales, vous intéressent moins que les comptes des entreprises.
C'est désagréable, hein, je ne vous le cache pas. C'est-à-dire que quand je fais mon métier, d'investir dans une entreprise qui va perdre 25% dans le mois, je trouve ça désagréable, mais c'est pas ce qui me stresse le plus. Ce qui me stresse le plus, c'est quand je me suis trompé sur une thèse d'investissement et sur le développement effectif de l'entreprise. Ça me stresse véritablement. Perdre 25% dans un mois, moi j'ai lancé mon entreprise en août 2008, donc je sais à quoi ça ressemble. C'est quelque chose avec lequel je peux vivre, même si ça crée des désagréments quotidiens. Mais aujourd'hui, quand je regarde les entreprises, effectivement, on a beaucoup tapé sur les entreprises de croissance, et je pense très spécifiquement à la tech américaine. Alexandre disait que la tech avait baissé de 30%, mais en réalité, ça c'est le Nasdaq. Si on regarde plus pratiquement le logiciel, et particulièrement le logiciel en SaaS, qui est certainement ce qu'il y a de plus résilient, parce que ce sont des abonnements, parce qu'on est sur une mutation digitale des entreprises, on a des entreprises qui ont baissé jusqu'à moins 80%. Alors, certainement qu'on corrigeait des excès précédents, même si ces excès ne ressemblaient en rien à la bulle Internet de 2001.
Oui, parce qu'il y en a qui commencent à comparer quand même. Hein,
oui, mais c'est une comparaison qui est absurde. En fait, le problème de la bulle Internet de 2001, c'est que les entreprises n'étaient pas capables
d'argent.
De délivrer.
Oui.
Mais c'est surtout que, en fait, Internet a émergé avec le haut débit, et le haut débit est arrivé au mi-temps des années 2000. Donc, en fait, on pariait déjà. Moi, je vivais à Hong Kong en 98 et on voulait racheter à l'époque le catalogue de films des Shaw Brothers, qui sont tous les films hongkongais, en disant on pourra faire du streaming en 1998. Et donc, c'est de ces pensées-là très prospective. Hein, on se rappelle de Messier qui avait raison sur toute la ligne, mais il avait raison 10 ans trop tôt. Là, on n'est pas du tout dans le même cadre. On est dans le cadre, au contraire, d'une industrie qui est en train de se déployer, qui délivre des chiffres d'affaires colossaux, de la profitabilité pour la plupart d'entre elles et pour celles qui ne le sont pas, souvent d'ailleurs des pertes qui sont dues à des conquêtes commerciales et pas à une prospective sur leurs produits. Et donc, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire aujourd'hui, on est sur des multiples de valorisation qui sont historiquement bas. En fait, même sur la tech, vue de manière large, on compare souvent la croissance du chiffre d'affaires au multiple des ventes et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est à un point de récession qui est comparable aux récessions précédentes. Donc, on est à des points bas. Est-ce qu'on peut aller encore 20% plus bas ? Je n'en sais fichtre rien. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la valeur est bonne.
Oui.
Et les entreprises sont résilientes.
Certes, mais lorsque, pour reprendre de la tech par exemple, on part sur une idée d'investissement de liée au semi-conducteur, etc., qu'on est dans une période où il y a une pénurie dingue de semi-conducteurs et on se dit justement on va jouer là-dessus parce qu'il va y avoir de l'investissement, etc., et puis que au moment où ça semble aller mieux, Joe Biden dit bah, je vais interdire l'exportation. C'est-à-dire que votre pari entrepreneurial, il peut être aussi mis à mal par des décisions géopolitiques.
Non, ça, une fois de plus, c'est tactique. En fait, la logique des semi-conducteurs s'y positionner parce qu'on dit qu'il y a une carence. En fait, les semi-conducteurs restent un secteur qui est avec des aspects commoditaires et donc cycliques. Et puis, effectivement, des données géopolitiques. Mais finalement, qu'est-ce que nous dit cette période ? C'est qu'il faut s'intéresser précisément aux perspectives totalement autonomes des entreprises et à leur qualité intrinsèque. Et donc, par conséquent, c'est une logique qui est assez différente, justement, du positionnement tactique à un moment ou l'autre, où il y a une flambée sur un secteur. Moi, ça n'est pas mon sujet. Je n'irai pas sur les semi-conducteurs sur cette logique-là. J'irai sur les semi-conducteurs si je pense qu'effectivement, le nouveau déploiement technologique du logiciel va pousser le secteur des semi-conducteurs. Et c'est un secteur que je connais mal, donc je ne vais pas me positionner.
Non, mais je prenais les semi-conducteurs
C'est là où la pensée
une idée géopolitique directe.
Pas favorable. C'est la pensée de long terme sur des qualités intrinsèques d'entreprise sur lesquelles il faut se pencher.
C'est hyper intéressant ce que nous raconte Louis. On quitte un petit peu votre monde qui, lui, est très... très guidé par toutes ces grandes données, que ce soit les banques centrales, les questions géopolitiques, les...
Oui, parce qu'on regarde aussi du coup les, par exemple, les semi-conducteurs, si on remonte là-dessus, c'est vrai que c'est des valeurs qui ont été très réactives directement à la question de l'inflation et des taux. Ça a baissé tout de suite. Et c'est des secteurs, des valeurs comme Nvidia ou autres qui ont baissé beaucoup plus, effectivement, que certaines autres large caps du Nasdaq. Donc c'est vrai qu'on, là, typiquement, je trouve que sur les valeurs-là, on revient sur des niveaux à la fois de prix intéressants, de valorisation intéressante. Et puis on va regarder du côté de, d'où le ralentissement finalement économique a commencé. C'est la Chine, hein, les confinements, premier semestre. La Chine qui a ralenti très fortement. Là, cette nuit, on a vu déjà des informations et s'entendre qu'il y avait des ordres donnés aux banques pour commencer à racheter un petit peu les banques domestiques, pour racheter un petit peu des actions, pour commencer à juguler un peu cette phase de baisse. On sent que la Chine a atteint déjà depuis quelques mois son seuil de douleur. Et il y a des mesures qui sont prises pour stabiliser. Regardez ce matin, qu'est-ce qui a rebondi en bourse ? C'est le luxe. Le luxe rebondit pourquoi ? C'est pas tellement par rapport à la Russie ou à d'autres choses, c'est parce que la Chine, on a eu cette information, on voit que la tech en Asie a rebondi aussi cette nuit. Voilà, dès qu'on verra ce genre de nouvelles, des ordres qui sont passés pour que les fonds d'État rachètent un peu des actions, qu'on aura des mesures de soutien, qu'on verra peut-être de la macro, ce qui était le cas au mois d'août, on a des chiffres, ventes au détail, production qui est un petit peu meilleure. Si on commence à voir l'économie chinoise, on commence à bottomer un petit peu, on aura les premiers signaux, je pense, même aussi pour la partie occidentale et pour les marchés européens. Je vais juste faire un petit pronostic quand même. Moi, je pense que un des pivots pour les marchés peut être la mi-octobre. Mi-octobre, on a les prochaines publications d'inflation aux États-Unis. Je pense qu'elles vont montrer un ralentissement plus fort que les deux mois. On a déjà deux mois, il ne faut pas oublier, il y a deux mois de ralentissement aux États-Unis de l'inflation, mais la partie core n'a pas été appréciée par le marché. L'inflation globale, ça fait deux mois qu'elle ralentit. Je pense qu'on a un ralentissement qui sera un peu plus marqué au mois d'octobre, parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs avancés, d'indices de composantes de prix dans les ISM, les PMI, qui montrent qu'on est en train de ralentir. L'énergie qui a également ralenti, je ne vois pas comment ceci ne va pas se finir, pas se traduire. Sachant que c'est d'ailleurs un sujet, on dit, oui, mais ça, on le voit déjà depuis quelques mois, ça ralentit pas assez. Mais sauf que ça continue de ralentir. Et l'inflation, c'est un mouvement permanent, un mouvement d'accélération permanente. Donc, si pendant plusieurs mois, vous avez des ralentissements qui s'opèrent dans les composantes de prix, à un moment donné, sur la partie CPI globale, on va l'avoir. Donc, je pense que la question du dollar fort, ça va commencer à changer un petit peu à partir de la mi-octobre, parce que je pense que si l'inflation US sera un petit peu en dessous, et ce sera pas mal pour le marché.
On a bien. Faisons un peu de prospective juste pour terminer la séquence. Louis, vous nous avez fait un plaidoyer pour le stock picking finalement, qui est celui de se pencher sur les boîtes, etc. Est-ce qu'il y a quand même un peu d'allocation générale? Enfin, il y a beaucoup de vos petits camarades qui nous disent, c'est vrai qu'en ce moment, avoir une poche de liquidité se créer comme ça de 15-20% de poudre au sec pour saisir des opportunités, c'est intéressant. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous utilisez aussi?
Alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Alexandre, c'est que c'est un des rares stratégistes qui instille un petit peu d'optimisme. Parce qu'aujourd'hui, quand on lit les morning meetings de tous les stratégistes, on a envie de pleurer. Peut-être le plus optimiste est Goldman Sachs avec un S&P à 3006 alors qu'il est à peu près à 3007. Mais Bank of America est plutôt à 3003. On se rappelle de Ray Dalio qui nous a dit qu'il nous a promis une baisse de 20%. Et finalement, quand on a les prévisionnistes qui sont tous alignés, j'ai tendance à penser que ça va aller dans l'autre sens. Donc, moi, j'ai une... À titre personnel, une poche de cash, je déteste avoir du cash parce que je pense que le meilleur support d'investissement, ça reste les entreprises et que particulièrement en période d'inflation, le cash se déprécie et les entreprises peuvent avoir un point bas, mais derrière. Oui, il faut avoir une poche de cash pour éventuellement un coup dur additionnel dans le marché, puisqu'on a vu qu'effectivement, si le marché a digéré, on ne sait pas ce qu'il peut avoir à digérer demain. Quel que soit le positionnement qu'on ait aujourd'hui. Donc je pense que c'est bonne mesure d'avoir une poche de cash, mais à ce niveau-là, la trouille au ventre, mais c'est comme ça qu'il faut agir, hein. C'est Warren Buffett qui disait la peur, ma peur est mon pire ennemi, la peur de l'autre est mon meilleur allié. Eh ben, il faut savoir réengager progressivement à ces niveaux du CAC. C'est des niveaux du CAC qu'on voit rarement et qu'on ne va pas revoir forcément dans les mois qui viennent, quoi qu'en disent beaucoup de prévisionnistes. Donc mon conseil, c'est oui, d'avoir une poche de cash, c'est pas le moment de la fabriquer. Ouais. Hein. Si vous ne l'avez pas, c'est trop tard. Pour moi, c'est un peu le moment de commencer à la réengager. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises de meilleure qualité sont celles qui ont le plus morflé en bourse. Et donc, c'est là où on trouve des vraies opportunités. Nous, on en profite pour augmenter considérablement la qualité du portefeuille.
Donc, il fallait avoir une poche de cash et on peut commencer à l'utiliser.
Exactement.
À quoi va ressembler la fin de l'année ?
Je pense que quand je parle du 15 octobre, que l'inflation pourrait commencer à avoir des signaux un peu plus intéressants, que les taux pourraient commencer à plafonner un peu côté US, c'est quand même dans une optique un peu de plateau, hein. C'est-à-dire qu'on ne voit pas effectivement, et c'est comme ça que le présente la Fed, il n'y a pas de raison d'imaginer que les taux arrivent à un pic et puis redescendent tout de suite. Elle-même ne les baissera pas tout de suite, même probablement pas avant 2024 selon les projections. J'ai l'impression qu'on aura une espèce de plateau sur les taux et donc peut-être un point aussi sur l'euro-dollar, une espèce de plateau bas pour l'euro-dollar et donc aussi une espèce de plateau pour les marchés. C'est-à-dire qu'il ne serait pas impossible qu'on ait effectivement, c'est dur de prévoir le point bas, si le CAC va chercher un peu plus bas, 5005 par exemple, il me semble quand même que la zone 5006-5008, ce sera un peu la zone pivot, la zone tampon. C'est-à-dire que si on passe en dessous, ça restera la zone qui va réaimanter après les cours. Je ne pense pas qu'on assiste à des phases vraiment de bear market long comme la bulle internet par exemple, pour les raisons que Louis expliquait sur la profitabilité notamment, sur le fait aussi que les banquiers centraux aujourd'hui ont des réponses différentes. Ils ne laisseront pas, je pense, un marché se dégrader pendant 3 ans parce qu'il y a des conséquences économiques fortes. Ça coûte de l'argent quand il faut relancer tout ça. Donc l'impression qu'on va arriver effectivement dans une zone un peu bottomante, mais de laquelle il ne faut pas, par contre, je pense, attendre à avoir des rebonds de 20%. Voilà, plutôt quelque chose qu'on va racler le fond quelques temps, mais sans forcément beaucoup plus se dégrader, mais quelque chose d'un peu inerte, un peu ralentissant, et donc une fin d'année un peu plate en fait, hein, un peu monotone finalement.
Merci beaucoup à tous les deux. Alexandre Baradez, IG, Louis de Montalembert pour Pléiade AM était au cœur de Regards Croisés ce matin. Merci messieurs. Bon retour et bonne semaine sur les marchés. Des marchés qui, pour le moment, ont opté pour la baisse. On perd 0,13%, 5775 points. On va voir tout de suite ce qu'en pense. Andrea Tueni nous attend chez Saxo Bank et il suit la séance pour nous. Et puis n'oubliez pas non plus les podcasts qui vous permettent de retrouver tout ou partie de l'émission à votre convenance.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Ça hésite, ça monte, puis ça descend. Que retenir de la tendance et essayons de tirer des plans sur la comète du reste de la journée grâce à Andrea Tueni que l'on retrouve chez Saxo Bank et qui suit les pulsations du marché pour nous ce matin. Rebonjour Andrea. Donc pour le moment, après avoir un peu hésité, on a opté pour la baisse.
Oui, en effet, on revient sur une dynamique plutôt baissière. On l'avait dit, hein, que c'était fragile, la tentative de rebond qu'on avait ce matin. On a eu dans tous les cas une ouverture assez animée, des mouvements très erratiques hein, sur le marché. On a perdu à l'ouverture avec un gap à la baisse. Derrière, on a réussi à rebondir, gagner du terrain très rapidement. Et puis là, on repart sur quelque chose d'un peu plus négatif sur le CAC. Voilà, la séance et la tendance devraient rester erratiques. On a des marchés qui sont craintif, on va dire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On a connu la pire semaine depuis mi-juin, la semaine dernière sur le marché, avec toujours cette même combinaison entre inflation, risque de récession, crise énergétique, puis aussi la guerre en Ukraine qui touche l'Europe. On a en plus là eu des prévisions de l'OCDE qui se montrent assez négatives et qui soulignent hein, vraiment un très fort risque de récession pour l'Europe. On a aussi eu l'indice IFO allemand qui est ressorti en baisse. Donc, on a quand même une combinaison de mauvaises nouvelles sur le marché qui rendent, on va dire, un rebond, en tout cas durable, très difficile. Après, il y a deux scénarios possibles. Il y a un premier scénario où on a un risque de capitulation du marché. Alors, il y a des niveaux qui sont assez marqués. Sur le CAC, ça peut être une cassure franche des 735-40. Sur le S&P, ça serait plus une cassure des 3640. Voilà deux niveaux qu'on peut surveiller. Si on a vraiment une cassure nette à court terme de ces niveaux-là, on pourrait avoir vraiment une capitulation. Après, maintenant, sachant que le sentiment est déjà extrêmement bas sur le marché, on peut quand même espérer dans les prochains jours un rebond. Mais voilà, ça reste encore très fragile, sans aucune certitude. Et il faut rester méfiant. On a en plus, il faut surveiller aussi le mouvement du côté des devises, hein, qui est aussi assez violent. On l'a vu avec la livre sterling contre le dollar. On l'a vu aussi avec l'euro-dollar, hein, qui a baissé très nettement avant de tenter une reprise ce matin. On a des mouvements qui sont très violents sur les devises, on a des mouvements aussi assez forts hein, sur les taux, avec notamment le 10 ans américain qui poursuit sa hausse. Donc voilà, il faut surveiller plusieurs éléments, plusieurs aspects pour espérer peut-être voir un rebond cette semaine, mais il faudrait qu'il intervienne à court terme pour essayer, on va dire, d'endiguer un petit peu cette dynamique négative qui s'est créée, qui s'est surtout accélérée la semaine dernière. Donc voilà, pour le moment, on a un marché qui est assez erratique, de la volatilité, on a un VIX qui repasse au-dessus des 30. Donc voilà, on a quand même une dynamique qui n'est pas très positive et qui est même légèrement inquiétante, même si, voilà, en fonction, encore une fois, de ce sentiment qui est déjà très dégradé, on peut espérer un rebond, mais il faut qu'il intervienne à court terme.
Merci beaucoup, Andrea Tony, Saxo Bank, qui nous accompagnait ce matin sur ce marché, qui a opté pour la baisse, -0,23, 5769 points. L'eurodoll est à 96,73.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric.
Bonjour Cédric.
Pour Patrimoine 24 et quelques idées de fonds grâce à vous. Un auditeur nous demande ce qu'il faut penser d'un nouveau fonds, le Lupus Alpha.
Alors c'est quoi ce Lupus Alpha? C'est pas un nouveau fonds en fait, Lupus Alpha. C'est une société de gestion. Lupus en latin c'est le loup. Alors, sauf si vous êtes amateur du Dr House, c'est une maladie auto-immune. Et puis Alpha, c'est la valeur ajoutée de la gestion par rapport au bêta qui représente les mouvements du marché. Lupus Alpha, c'est pas une nouvelle maison de gestion. C'est une maison de gestion qui a 20 ans. C'est une maison de gestion allemande. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle est en train de s'implanter en France.
Donc ça fait une maison de gestion de plus ?
Oui, c'est vrai, ça fait une maison de gestion de plus, une maison de gestion allemande de plus, puisque vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé du fonds Refer Total Return International, qui est géré par une maison allemande. Là, c'est un peu le même scénario, c'est un peu le même profil, on a une société entrepreneuriale, c'est une boutique, comme disent les anglo-saxons, donc c'est une relativement petite société de gestion qui pèse 14 milliards d'euros. Alors 14 milliards d'euros, ça commence à faire un peu d'argent, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de monde qui leur fait confiance. Ça a une très bonne réputation en Allemagne. Plusieurs de leurs fonds sont notés 4 ou 5 étoiles par Morningstar. Donc c'est plutôt une maison qui est, entre guillemets, sur le haut du panier.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, justement, sur cette maison ?
Alors, on l'a dit, c'est une boutique. Souvent, comme toutes ces boutiques, on a une gestion de conviction. Ça essaye de sortir des phénomènes de mode. On a une gestion assez typée avec 4 expertises, les petites et moyennes valeurs, allemandes à l'origine, mais européennes aussi.
Ouais, ça compte beaucoup en Allemagne.
Les obligations convertibles, la gestion alternative et puis les CLO, les Collateralized Loan Obligations, qui sont un peu des ABS, des Asset Backed Securities. Donc voilà, 4 expertises que cette maison entend venir diffuser en France. Et puis dernier point, c'est une maison avec une équipe relativement petite, 90 personnes. Alors 90 personnes, ça fait du staff, mais pour gérer 14 milliards. En fait, ça fait un ratio qui est assez raisonnable.
Pourquoi autant de boîtes de gestion allemandes viennent-elles sur le marché français ?
Alors, il n'y a pas que les Allemands qui viennent sur le marché français. Il y a des sociétés de gestion italiennes comme Anima, anglaises comme Eleva. Il y a des sociétés de gestion espagnoles. La raison, c'est que quand vous êtes une société de gestion et que vous avez un certain succès, que vous gérez bien, vous collectez et que ça se passe bien sur votre marché national, il y a un moment, vous dites pourquoi ne pas aller à l'international. Ça permet de collecter des encours supplémentaires pour pas cher, puisque là, vous allez à l'international juste mettre en place une équipe commerciale dont le job, ça va être de vendre. Donc, grosso modo, c'est plutôt une stratégie de développement astucieuse. En plus, on assiste au niveau de cette industrie de la gestion à une phase de consolidation, de taille critique. Donc soit les gens se rachètent, soit les sociétés achètent, soit elles font de la croissance organique. Puis il ne faut pas oublier que le marché français, c'est un gros marché. C'est 4 800 milliards d'euros, c'est le premier marché européen. Donc vous êtes une société de gestion italienne, allemande, espagnole, anglaise de taille, vous commencez à avoir une certaine taille, vous dites on va aller voir si on peut lever de l'argent, entre guillemets, sur le marché français.
Est-ce que ça vaut le coup de s'intéresser à ces nouveaux acteurs ?
Oui, je crois que ça vaut le coup parce que c'est souvent des équipes de talents, c'est souvent des sociétés, on l'a dit, entrepreneuriales avec des gens qui prennent des risques, ça apporte de nouvelles idées, de nouvelles expertises. Et puis, à votre auditeur, quand même, chapeau, c'est bien de se tenir au courant. Parce que je ne connaissais pas, et c'est grâce à lui que j'ai découvert que cette société de gestion que je ne connaissais pas s'installait en France.
Lupus, donc.
Lupus Alpha, le nom est assez surprenant.
Frédéric Lorenzini et Patrimoine 24. À très bientôt, Frédéric.
À bientôt.
Le marché parisien, il s'est installé en territoire négatif. On perd 0,48%, 5 755 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
C'est l'heure où toutes vos questions trouvent leurs réponses grâce ce matin à Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu. Prêt, Christian ?
On y va.
On rappelle l'adresse, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Ça, c'est pour nous écrire. Et chaque matin, donc, nos experts vous répondent. Question de Marie-Christine. Pourquoi détenir mes titres Air Liquide au nominatif ? Ah tiens, c'est pédago ça.
Ben, c'est pédago et bonne question, et avec un potentiel de gain très significatif, puisque Marie-Christine, si vous détenez vos titres Air Liquide au nominatif, potentiellement vous allez pouvoir profiter d'un bonus de 10% au niveau du dividende et d'un bonus de 10% au niveau des distributions d'actions gratuites. Vous savez que Air Liquide, historiquement, ça n'a pas été le cas récemment, mais historiquement, distribue donc une action gratuite pour 10 détenus tous les 2 ans. Alors, parler de pédago, c'est vraiment le sujet, il faut prendre un tout petit peu de hauteur. Vous avez trois modes de détention d'une action. Vous avez au porteur, nominatif administré ou nominatif pur. Au porteur, c'est le cas classique.
C'est le régime commun, en fait.
C'est le régime commun, donc vous détenez vos titres, Air Liquide ou autre, dans votre établissement financier, et c'est via cet établissement financier que vous passez vos ordres et que vous gérez vos titres. Avantage, je dirais, de ce mode de détention, vous connaissez. Limite, c'est que vous ne profitez pas de cette fameuse prime de 10% sur le dividende et les
actions. En gros, on pourrait résumer que vous connaissez l'entreprise, mais que l'entreprise vous connaît pas.
Voilà, c'est bien résumé. Et très concrètement, pour qui ? Donc, au porteur, c'est notamment pour tous ceux qui font du trading, qui multiplient les allers-retours. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le nominatif administré. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez demander, et ça se passe souvent en fin d'année, donc c'est une question d'actualité aussi, vous pouvez demander à votre intermédiaire financier de passer, donc du régime du porteur, de convertir vos titres du porteur vers le nominatif administré. Donc dans ces cas-là, vous conservez la gestion de vos titres auprès de votre établissement financier, mais pour rebondir sur votre remarque, l'entreprise sait désormais, connaît votre nom, et vous avez votre nom dans ces listings. Donc l'avantage de ce mode de détention nominatif administré, c'est que vous profitez des primes de fidélité. Les limites, entre guillemets, c'est que pour profiter de la prime de fidélité, il faut conserver ces titres au nominatif administré pendant 2 années civiles pleines. Donc si vous agissez avant la fin de l'année, vous profiterez de la prime que uniquement en 2025. Certains établissements financiers faisant facturer ce service. Si vous avez acheté, il faut mieux regrouper. Si vous avez acheté plusieurs fois des titres au cours de l'année, ben ne faites qu'une seule demande pour passer au nominatif administré. Je dirais que ça, c'est une solution qu'on revenu on aime bien, nominatif administré, parce que ça permet notamment de gérer vos titres dans le cadre de la fiscalité privilégiée du PEA. Bon. Et puis vous avez le nominatif pur. Oui. Donc dans ces cas-là, vous gérez vos titres auprès du service actionnaire d'Air Liquide en fonction de la facturation proposée par Air Liquide, plutôt compétitive, autour historiquement de mémoire de 0,1% hors taxe de frais de transaction. Et donc là, vous avez un nouvel interlocuteur. Vous profitez de ces fameuses primes de fidélité. L'inconvénient qui n'en est pas vraiment un, mais quand même, c'est que vous ne profitez plus de la fiscalité du PEA, mais vous profitez de la fiscalité du compte-titres. Bon. Donc, l'inconvénient, c'est que l'ensemble des prélèvements fiscaux et sociaux, notamment dividendes et plus-values, passe de 17,2 à 30%. L'avantage, c'est que si vous cédez vos titres, dans le cas d'une donation ou d'une transmission, d'une succession à vos enfants ou à vos proches, eh ben, vous êtes exonéré de prélèvements sociaux sur l'opération. Et puis, vos descendants ou les bénéficiaires de votre générosité conservent l'avantage de la prime de fidélité. Donc, le nominatif pur, je dirais, c'est si vous avez fait le plein du nominatif administré, donc si votre PEA est plein, en fait, ou si vous envisagez de transmettre vos titres à vos enfants ou petits-enfants.
Et là, vous parlez à chaque fois d'Air Liquide. Tous ces modes de détention sont possibles dans toutes les boîtes ?
Il faut Air Liquide est une entreprise particulière, une entreprise préférée par les actionnaires individuels, qui a un vrai
savoir-faire.
C'est au cas par cas. Et notamment, toutes les sociétés n'offrent pas cette fameuse prime de fidélité qui est, dans le cas présent, l'intérêt du nominatif. Par contre, vous avez raison, c'est un sujet sur lequel il faut se préoccuper. Vous voyez, pour gagner plus avec son compte-titres ordinaire, avec son PEA, avec son portefeuille boursier, vous pouvez mieux choisir vos titres, vous pouvez internationaliser vos placements, mais vous pouvez aussi aborder, et on ne le fait pas assez, toutes les questions patrimoniales liées à la détention de votre portefeuille. Et donc, les modes de détention des actions sont un sujet à regarder de près, notamment dans le cadre de cette action.
Voilà, Marie-Christine, pour ces questions liées à ce qu'on appelle donc le nominatif, qui est un des modes de détention des actions. Question d'Amélie, elle nous dit « Je suis une jeune épargnante », elle nous précise qu'elle a 27 ans, elle a un PEL, un PEA, bientôt un PEA PME, et sur ces deux derniers, elle a une somme de départ de 1000 euros, et elle se demande comment diversifier au mieux avec une telle somme. Elle voudrait savoir comment investir et dans quoi.
Alors, d'abord, bravo à Amélie. Elle est jeune, elle a 27 ans, elle s'intéresse à la bourse, c'est bien, et elle a raison, parce que pour profiter, plus vous commencez tôt à placer en bourse...
Pas que la bourse, il y a le PEL aussi.
Oui, elle s'intéresse notamment à la bourse. Le PEL, c'est plus classique, mais elle s'intéresse notamment à la bourse, et plus on commence tôt, effectivement, plus on peut pleinement profiter de la progression de la bourse dans la durée. Alors... Mais elle veut presque trop bien faire lorsqu'on regarde la composition de son patrimoine. Elle a déjà un PEL, donc ça, vous savez, c'est un placement mis en avant par le revenu, même si, je dirais, sa performance, qui est figée dans le temps, est moins intéressante en période d'inflation et de hausse des taux qu'elle n'a été par le passé. C'est plutôt un bon plan. Il manque quand même, notamment pour une jeune épargnante, une famille de placements qui monte en ce moment, parce que les taux progressent, c'est bien sûr tout ce qui les livrets défiscalisés. Très appréciés par les Français, de mémoire, en juillet, le PEL n'a jamais autant collecté cet été. Et tout simplement parce que le taux donc de revalorisation a grimpé à 2%. Mais surtout, lorsqu'on débute sa vie d'épargnant, vous savez, se constituer un patrimoine, c'est un peu comme les étages d'une fusée. Il faut commencer par le bas. Et le bas, c'est l'épargne de précaution placée sur des livrets aujourd'hui défiscalisés, puisqu'ils sont plus rentables que les livrets fiscalisés. Et donc, peut-être que... Amélie, commencez par placer un minimum, l'équivalent de quelques mois de revenus, sur ces livrets défiscalisés. On ne peut pas en faire l'impasse. Après ça... Vous semblez être une adepte de la multiplication des enveloppes fiscales, PEA, 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 PEA et PEA, PME. prudence aussi. Alors c'est vrai que c'est un vieux conseil patrimonial.
Oui, c'était pour toujours ouvrir, vrai pour prendre date.
C'est un peu la tarte à la crème. Et aujourd'hui, le problème, c'est que plus vous avez d'enveloppe fiscale, ben plus vous émiettez, vous répartissez votre épargne et vous ne serez pas forcément gagnant. Vous ne serez pas forcément un épargnant, je dirais, intéressant pour l'établissement financier auprès duquel vous aurez ouvert cette enveloppe. Donc quelque part, il va vous le faire payer sous forme de frais directs ou indirects. Et le PEA-PME n'offre pas beaucoup d'avantages en plus du PEA. Sauf l'avantage principal, c'est d'augmenter l'enveloppe que vous pouvez placer en
cadre fiscal. Oui, parce qu'on précise que toutes les valeurs, ou quasi toutes les valeurs qu'on peut mettre dans un PEA-PME, on peut les mettre dans le PEA.
Voilà, tout à fait. La seule
avantage, quelques exceptions.
Vous pouvez placer, de mémoire, c'est 225 000 euros ou 220 000 euros sur un PEA-PME, alors que vous ne pouvez placer que 150 000 euros sur un PEA. Premier conseil à Amélie, plutôt qu'ouvrir un PEA-PME, mettez quelques centaines d'euros au minimum sur des livrets défiscalisés. Et ensuite, je dirais, n'ouvrez pas de PEA-PME. Si vous avez des primes, donc de l'argent qui arrive, versez-le plutôt sur votre PEA. Et pour diversifier avec quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, c'est pas facile. Le revenu recommande plutôt 10 lignes équipondérées avec 1000 euros, peut-être ça peut faire 100 lignes. Dès le départ, il faut penser aussi à internet. Nationaliser le PEA. Voilà. Amélie, vous avez des bons réflexes, il ne faut pas non plus aller trop vite. Attention à ne pas multiplier les enveloppes fiscales, sauf si vous anticipez des rentrées d'argent particulièrement importantes. Sinon, vous risquez quelque part d'être rattrapé par la patrouille. Et en matière financière, la patrouille s'appelle les frais, notamment. Il peut y avoir aussi une patrouille fiscale, mais il peut y avoir une patrouille donc des frais sur les placements. Et donc, trop d'enveloppes entraîne souvent trop de frais. Donc, c'était quelques conseils pratiques pour Amélie.
Question de Lucie, qui a 43 ans et qui pense à sa retraite. Elle se dit qu'elle souhaiterait contracter une assurance vie et elle voudrait des conseils, soit 100% fonds en euros ou un panachage entre du fonds en euros et des UC.
Alors,
déjà, si elle part de zéro, elle aura du mal à mettre que du fonds en euros, a priori, aujourd'hui, non?
Alors, elle peut avoir, accepter de payer des frais rédhibitoires de 2%.
Généralement, les assureurs, maintenant, veulent qu'on panache.
Oui, il y a toujours quelques exceptions, mais effectivement. Alors, derrière la question de Lucie, il y en a deux. D'abord, il y a le choix de l'enveloppe fiscale, et ensuite, il y a ce qu'on appelle la répartition, l'allocation d'actifs, pour reprendre une expression des professionnels. C'est au sein de l'assurance-vie, le choix des fonds. Bon. Là, l'enveloppe assurance vie est parfaitement bien adapté à l'épargne retraite. C'est un bon complément au plan d'épargne retraite, le PER, dont on parlait tout à l'heure et qui fêtera ses 3 ans le 1er octobre. Donc, bon plan sur l'assurance vie. Lucie, consultez les bancs d'essai du revenu, notamment les trophées d'or du revenu, pour savoir quel contrat choisir. Ensuite, l'assurance vie n'est pas un placement au sens strict du terme, c'est une enveloppe fiscale et au sein de cette enveloppe fiscale, vous choisissez les supports sur lesquels vous voulez mettre votre argent. Elle propose d'être 100% fonds en euros ou avec une dose d'UC. 100% de fonds en euros, on est dans le cadre d'un placement retraite. Donc c'est-à-dire que Lucie, elle a 43 ans, elle a 20 ans devant elle. Le fonds en euros, aujourd'hui, c'est un rendement, certes, c'est un placement sans risque, mais c'est un rendement inférieur à l'inflation. Donc chaque année, si elle place tout sur le fonds en euros, elle va perdre de l'argent, elle va perdre du pouvoir d'achat. Plus votre durée de placement est longue, là elle est très longue, elle est 20 ans, plus vous pouvez vous permettre de prendre des risques, plus vous devez aller en bourse, plus pour profiter de la tendance haussière de la bourse sur le long terme. Donc bien sûr, elle doit mettre une dose d'UC. Alors, est-ce qu'elle doit appliquer la fameuse stratégie du revenu 60-40? On peut le penser, elle est pas mal, 60% fonds en euros et avec 40% d'UC. Pourquoi je dis que c'est la bonne répartition? Peut-être pour Lucie, parce que manifestement, elle est comme beaucoup d'épargnantes, elle est frileuse, donc elle ne veut pas placer la totalité en unité de compte. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait sans doute faire à 43 ans. Ensuite, la question qui se pose, c'est quel UC? Alors, je sais bien qu'on fait beaucoup souvent la promotion des fonds flexibles avec un mix d'actions d'obligations, voire des fonds qui investissent votre argent en immobilier. Hein, deux mots magiques, hein, en épargne, assurance vie, immobilier. Bon, on fait les deux et vous pouvez espérer avoir le meilleur de deux mondes. Le revenu, on recommande 60%. On reste fidèle à notre stratégie. qui fonctionne, 60% fonds en euros, 40% unités de compte, investis 100% en actions, des produits purs, au moins vous savez ce que vous avez. Vous avez le fonds en euros pour la sécurité, le bon coussin amortisseur sympathique, et puis vous avez les unités de compte investies en bourse. Certes, quand les marchés dégringolent, vous voyez fondre votre épargne, mais dès qu'ils rebondissent, vous en profitez intégralement, tandis que si vous investissez sur des fonds mixtes, actions et obligations, c'est moins évident. Puis les taux d'intérêt sont quand même, on peut dire de remonter des taux d'intérêt, donc tout ça n'est pas très bon pour les fonds obligataires qui ont connu certainement leur pire trimestre en début d'année depuis bien longtemps. Donc voilà quelques conseils.
Donc Lucie, 60-40 quoi.
Vous avez bien zoomé. Hein.
Oui à l'assurance vie avec du 60-40. Elle peut pas ouvrir un PER ?
Vous êtes évangélisé. Ah, bien sûr, elle peut ouvrir un PER.
Et si elle pense à sa retraite ? Alors,
elle peut ouvrir un PER.
Puis ça gère éventuellement un peu comme un contrat d'assurance vie.
Alors, oui.
Elle ne pourra pas faire de rachat.
À deux bémols, voilà, c'est ça. Elle est peut-être un peu jeune pour ouvrir le PER. Et puis surtout, on n'a aucune information sur sa fiscalité. Ouais, oui, elle peut ouvrir un PER si elle est taxée au moins à 30 ou 41%.
Allez, il vous reste 2 minutes en gros pour répondre à Paul qui veut savoir quels sont les taux de prélèvement concernant une donation qu'il ferait à sa sœur, à son neveu ou à sa nièce.
Allez, on va donner quelques chiffres parce que là c'est un peu inévitable pour répondre de façon précise à Paul. Pour une donation à sa sœur, il y a un abattement de 15 932 euros et au-delà c'est 35% ou 45% d'imposition. Donc pour un don de 100 000 euros, sa sœur devra quand même plus de 35 000 euros à l'administration fiscale. Donc ça pique. Pour un neveu et une nièce, l'abattement tombe à 7 967 euros, 55% d'imposition au-delà. Donc comme vous êtes fort en mathématiques et vous avez déjà dégainé la calculette, pour une donation de 100 000 euros, ça fait quand même plus de 50 000 euros que vous laissez au fils. Donc le montant de la douloureuse est important. Donc je dirais plusieurs conseils à Paul. D'abord, il faut savoir que s'il n'a pas d'enfant, il peut donner dans le cadre du don de somme d'argent 31 865 euros à chaque neveu et à chaque nièce sans passer par la case impôt. C'est pas négligeable, on l'oublie souvent. Et en ce qui concerne les frères et sœurs, voire les neveux et nièces aussi, miser sur l'assurance vie. On parlait tout à l'heure de l'assurance vie pour préparer sa retraite, mais aussi pour préparer sa transmission. Dans le cas d'une transmission pour classiquement, sans précaution particulière, pour un frère ou une sœur, ou pour un neveu ou une nièce, on grimpe très vite à 55%. Dans le cas de l'assurance vie, c'est limité à 31,25%. Et ce qui n'est pas négligeable dans le cas de l'assurance vie, c'est que vous conservez vos capitaux jusqu'au bout et vous pouvez, jusqu'au dernier moment, modifier votre clause bénéficiaire si vous avez décidé que finalement, ça serait plus un tel ou une telle qui devait profiter de vos économies.
Juste qu'on peut rappeler, parce qu'à chaque fois c'est bon à apprendre, c'est que si Paul est aisé, il peut prendre à sa charge les frais de donation au bénéfice de ses donataires, sans que ça soit considéré comme une donation supplémentaire.
Voilà, c'est ça, sans que ça soit considéré comme un cadeau supplémentaire. Ouais. On l'oublie effectivement. Généralement, c'est la personne qui reçoit qui doit passer par la case impôt si on dépasse le montant des abattements. Mais il faut savoir que la personne qui donne peut prendre à sa charge les sommes dues par la personne qui reçoit vos capitaux.
Voilà, on aura été complet comme ça. Merci Christian. Christian Fontaine et la rédaction du Revenu dans un instant. C'est 60 minutes business et c'est donc Sandra Gandoin. Bonjour Sandra, avec quoi démarre-t-on la semaine ?
Budget évidemment, budget 2023. Budget pour protéger les Français, c'est ce qu'explique l'exécutif face à l'inflation, à la récession. Thomas Asportas sera avec nous dans un instant. On sera aussi avec Nicolas Marquez de l'Institut Molinari qui nous dira si les réformes qui vont être mises en œuvre sont suffisantes. Le Haut Conseil de Stabilité Financière dit que non. Et puis on parlera de nucléaire, la filière nucléaire, c'est bien de vouloir la relancer, mais pour cela, il faut des mains, des ingénieurs, des techniciens. On en parlera avec Éric Gadet, directeur de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires. Et puis, évidemment, à 12h30, on répondra à toutes les questions que vous nous avez posées avec Lorraine Goumeau.
C'est à suivre. Dans quelques minutes, le marché parisien, lui, est en baisse de 0,56%, 5750 points. On a donc opté pour le rouge après avoir débuté la séance et la semaine dans le vert. On se donne donc rendez-vous nous demain matin à 10h et je vous souhaite une très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.